J'aimerais qu'on puisse prendre un peu le temps aussi après la prédication. Le Seigneur parle à nos cœurs, et je le crois encore ce matin, il parlera à nos cœurs. Et c'est bien aussi quand on peut s'exprimer une fois que le Seigneur nous a nourris. Alors j'aimerais commencer avec vous, il y a un gros bourdon là, je ne sais pas ce que c'est, mais si tu peux me régler ça, j'entends beaucoup de graves partout. Est-ce que c'est lui, peut-être ? Sinon, tu éteins lui, il faut, c'est pas grave. Alors, j'aimerais introduire ce message. Ce qu'on va voir là ce matin, quelque part, ce qu'on a vu par les chants, peut être la conséquence de ce qu'on va voir là maintenant. Et en ça, je trouve que c'est bien, parce qu'on s'est bien complété ce matin. Vous savez, des fois, les chants, ça, c'est la même chose que la prédication, mais des fois, c'est un complément parfait. Et là, pour moi, ce qu'on a fait ce matin, les chants qui ont été apportés correspondent à une conséquence que je vais pas être obligé de développer ce matin, parce que j'aimerais m'arrêter justement. On va essayer de remonter un peu pour voir ce qui peut nous amener à louer Dieu en toutes circonstances. Alors, pour introduire, d'abord, c'est une question que je vous ai souvent posée. Vous savez que Dieu a établi des principes. On a des principes de loi physique, comme la gravité, l'accélération, la force centrifuge, tout ce que vous voulez. Ce sont des lois qui sont là contre lesquelles on ne peut rien. C'est comme ça, ce sont des principes qui sont là pour toujours. Et d'un point de vue spirituel, il y a aussi des principes qu'il nous faut comprendre pour qu'on puisse aller plus loin. Une fois qu'on a compris qu'il y avait des principes, ça nous aide à avancer ensuite. Par exemple, je pourrais vous citer, là c'est pas les textes de base, mais c'est juste pour qu'on puisse comprendre cette idée. Il y a un principe dans Jérémie, chapitre 31, verset 30, « Chacun mourra pour sa propre faute ». C'est un principe, c'est écrit, c'est comme ça. Un autre principe, c'est l'apôtre Paul qui l'écrit, « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu », c'est la même idée. Mais un autre principe qui est, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est des choses qui sont établies. Le pardon aussi, on l'a entendu tout à l'heure, c'est un principe. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Autrement dit, celui qui ne pardonne pas sur la terre ne peut pas être pardonné dans le ciel. Ce sont des principes. Des principes spirituels. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous un principe particulier. Et là, on va le lire ensemble dans 2 Corinthiens, au chapitre 12. Et au verset 9. De Corinthiens 12, 9, je lis ceci. Le contexte, c'est Paul qui est éprouvé, justement, et qui a prié Dieu pour être délivré, pour être secouru. Et Dieu lui répond ceci, « Ma grâce te suffit. » Alors, j'imagine que nous, c'est vrai qu'on le chante. Je vous avoue que personnellement, j'ai du mal à chanter ces paroles. Parce que c'est quelque part... je dis pas qu'il faut pas le chanter. Je dis que moi, j'ai du mal. Parce que, quelque part, quand je lis ça, je lis une parole que Dieu donne à Paul, et ça a dû être dur à avaler quand même. « Ma grâce te suffit ». Ben, moi, je suis conscient que souvent, on est humain, hein, on est charnel, et la grâce me suffit rarement, en fait. J'en veux plus, mais ça, c'est mon vieil homme qui en veut plus. Et il me faut apprendre à être satisfait. Il me faut apprendre le contentement. Il me faut apprendre à compter sur la grâce. Bon, ça, c'était une parenthèse. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Est-ce que c'est juste ce que j'ai lu ? Non, c'est pas juste. Parce que si je lis ça, ça sous-entendrait que c'est vraiment lié à Paul et à son expérience. Or là, ce qu'on est en train de voir, c'est un principe. « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et c'est pas ta faiblesse. C'est la faiblesse, tout court. Parce que là, on est en train de voir un principe spirituel qui fait que Dieu fonctionne comme ça. Il fonctionne comme ça. Quand la puissance de Dieu se révèle, il faut toujours qu'il y ait une situation de faiblesse. S'il n'y a pas cette situation de faiblesse, la puissance de Dieu ne se développe pas. Parce que c'est un principe. Je ne sais pas si vous avez réalisé l'importance de ça. Si on est dans une situation où on se croit fort, où on est dans, on compte sur nos propres forces, vous regarderez dans toute la parole, celui qui est ainsi ne peut que tomber. Celui qui se croit debout, il tombe. Le jeune homme, il chancelle. C'est écrit dans Ésaïe. Pourquoi il chancelle le jeune homme ? Mais parce que le jeune homme, il est fort de ses propres forces. Tandis que celui qui est plus âgé, il a appris à compter sur autre chose. Alors physiquement, c'est bien si on peut compter sur nos propres forces. Mais d'un point de vue spirituel, compter sur ses propres forces, c'est mauvais. C'est mauvais pour nous. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Alors, on peut encore d'autres principes. Heureux les pauvres en esprit. Vous voyez ce principe ? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Voilà une parole encore qui nous montre la faiblesse et la puissance de Dieu. Je ne peux rentrer dans le royaume de Dieu que si je me sens indigne, que si je demande à Dieu sa grâce. Une autre parole qui dit, c'est Jésus qui le dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui pense avoir des richesses, celui qui pense avoir des forces, eh bien, il est incompatible avec ce que Dieu voudrait pouvoir faire pour lui, lui permettre de vivre, etc. Il faut accepter cette réalité. Alors, on va prendre un exemple, on va prendre deux exemples, trois, mais on va surtout développer un exemple en particulier. Le premier, c'est dans le livre des Juges, au chapitre 7. Et là, il y a une histoire où Gédéon va devoir expérimenter ce principe. Alors, Dieu permet ça aussi pour Gédéon lui-même. Vous savez, Gédéon, c'est le juge en Israël qui a voulu absolument être certain que Dieu l'appelait. Alors il a mis des signes, il a mis des choses. Et à cause quelque part de sa démarche, Dieu va devoir le tester aussi. Et tout autant que Gédéon a testé Dieu, tout autant Gédéon sera testé avec l'armée. Comme pour dire à Gédéon, je vérifie ta position de foi. Et Gédéon avait, à un moment donné, c'est là qu'on voit quand même que c'est important, Gédéon a décidé, à un moment donné, devant les signes, que c'était bon, qu'il pouvait y aller. Et on voit dans le texte que malgré les tests ensuite que Dieu permet, eh bien il a tenu bon. Et ensuite il est allé. Donc ça c'est bien, souvent on critique Gédéon parce qu'il a testé, mais quand Dieu l'a mis à l'épreuve aussi, il a tenu ferme. Hein. Et ici au verset 2, on lit ceci. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Israël pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a sauvé. Donc là, vous avez ici, dans cette parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Vous avez dans cette parole de Dieu l'explication de ce principe. Pourquoi la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse ? Pour que la gloire en revienne à Dieu seul. Voilà la réponse. Et on ne peut pas espérer avoir une puissance de Dieu en mettant en avant des œuvres et des choses humaines. Par exemple, on pourrait dire, voilà, dans l'église, on veut absolument la présence de Dieu, alors on va tout mettre à fond au taquet, la musique, les machins, les trucs, on va tout faire, chacun fait du mieux qu'il peut, etc. Et comme ça, il y aura la présence de Dieu. Ben non. Ben non. Parce que c'est pas dans cet état de cœur-là, où on est dans la performance, que Dieu va pouvoir se manifester. Dieu n'est pas le Dieu de la performance humaine. Au contraire. Au contraire. Dieu, ce qu'il attend, c'est un cœur simple. Un cœur vrai. Un cœur qui est conscient de ses limites. Et ici, pour Gédéon, il a en face de lui une armée gigantesque. Et pour que vous puissiez imaginer un peu ce que c'était, l'armée des Madianites, elle était en bas d'une colline. Et Gédéon, il va tout en haut, et ça fait comme une sorte de, ça doit faire comme une sorte de falaise en fait, parce qu'ils vont tous être autour, avec des cruches, vous savez, et les torches. Et en fait, pour qu'on puisse imaginer, il y a toute une armée innombrable en bas. Et eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient juste la crête de la colline. Vous voyez? Ils voient juste la crête de la colline. Et finalement, quand ils vont lever les yeux vers le haut de la colline, ils vont voir des hommes avec des cruches et des torches, mais tout autour. Alors qu'est-ce qu'ils vont imaginer? Ben, que l'armée derrière, elle est grande. Que l'armée derrière, elle est encore plus innombrable qu'ils ne l'étaient. Parce que de leur point de vue, ils voyaient des hommes là tout autour, avec les torches. Mais ils voyaient que la première ligne. Mais il n'y avait qu'une seule ligne. Il n'y avait qu'une seule ligne. Mais de leur point de vue, ils ne pouvaient pas imaginer qu'il n'y avait qu'une seule ligne. Et c'est comme ça qu'ils ont eu peur. C'est comme ça qu'ils ont eu peur. Et c'est comme ça que Dieu a remporté la victoire. Avec un faible nombre. Avec un peuple qui s'attendait à lui. On voit souvent que nous aussi, on a nos propres difficultés. On peut avoir conscience de telle ou telle faiblesse. Et on essaye par nous-mêmes d'aller au-dessus, de traverser, d'aller plus loin. Peut-être certains ont par exemple des addictions et ils essayent par leur propre force d'y arriver. Et ce combat-là est dur, je peux l'entendre. Et le message de Dieu encore par rapport à la délivrance, c'est que c'est dans la faiblesse. C'est dans ce cœur qui s'attend à Dieu plutôt que celui qui va chercher à vaincre par lui-même. Est-ce que tu es habitué à avoir sans cesse des paroles grossières et dans ton langage c'est tellement imprégné en toi que tu as du mal à t'en défaire? Est-ce que c'est écrit dans la parole que celui qui a des paroles grossières est désagréable à Dieu? Mais oui, c'est écrit. Est-ce que dans mon langage j'ai des paroles grossières? Est-ce que j'ai des blagues salaces? Ça plaît pas à Dieu, ça peut pas plaire à Dieu, ces choses. Et j'en suis habitué, ça me lie, c'est quelque chose quand je me retrouve avec des gens qui sont pas de l'église, parce qu'avec les gens de l'église, j'ai de faire attention. Mais quand je suis dans d'autres contacts, d'autres relations, je peux pas m'en empêcher. Là encore, vous pouvez être en situation de crier à Dieu. Parce que si tu crois que par toi-même, tu vas réussir à te débarrasser de ce trait de caractère, ce mauvais trait de caractère, eh bien, tu n'arriveras pas. Pourtant, la victoire, Dieu veut la remporter, mais il veut que la gloire lui en revienne. J'aimerais qu'on puisse voir un autre exemple. Et celui-ci, on va s'arrêter un peu plus longtemps, c'est dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5. Deux Rois, chapitre 5. Et là, je trouve que l'illustration, elle est... De ce principe, il est excellent. Est-ce qu'on va voir la faiblesse par laquelle Dieu va pouvoir faire une œuvre absolument merveilleuse? Alors on va lire le début de l'histoire, on ne va pas lire toute l'histoire. Alors on lit au verset premier. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Or, des troupes de Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son Seigneur en ces termes, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Alors le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et je t'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, etc. Donc ici, on a quand même une situation. Vous connaissez la fin de l'histoire, c'est que Naaman il va obéir à ce que Élisée va lui dire et il va être guéri de sa lèpre. Et il va y avoir certainement en Syrie des choses qui vont bouger grâce à cette guérison de Naaman. On ne sait pas ce qui va se passer en Syrie derrière, mais Naaman, on peut être sûr et certain que c'est une expérience qui l'aura marqué. D'autant plus que c'est de la lèpre qu'il est délivré. Donc c'est ça envoie un message supplémentaire. Ici, la situation est quand même incroyable, parce qu'on a plusieurs personnages, mais d'abord, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur cette petite fille. Cette petite fille, c'est une Israélite. Et là, j'ouvre une nouvelle parenthèse, parce que pour que cette petite fille ait eu le courage, parce qu'il fallait avoir du courage pour dire ce qu'elle a dit à Naaman, vous allez voir pourquoi. C'est qu'elle a reçu avant des choses, entre autres de ses parents. On peut facilement imaginer que, on ne peut pas savoir quel âge elle avait, mais on va faire une petite moyenne, c'est écrit une petite fille, donc on peut dire, allez, 10, 11 ans, 12 ans, mais pas plus. Peut-être 8 ans, 9 ans, je ne sais pas, mais par là. Qu'est-ce qu'elle a vécu, cette petite fille ? Ses parents lui ont enseigné, et je vous encourage à lire le psaume 78 pour vous en assurer l'importance de transmettre aux enfants. Que les parents puissent transmettre des valeurs, les valeurs du Seigneur. Alors c'est pareil quand je dis transmettre, il y a transmettre par des temps spirituels qu'on peut avoir, où on va expliquer des textes, des histoires, etc. Et ça, je vous invite à le faire. Mais soyons bien conscients que la plus grande leçon que nous donnons, ce n'est pas dans ces temps spirituels, c'est dans la vie de tous les jours. Est-ce que je suis sans cesse en train de faire du chantage avec mon fils, ma fille ? Ah, mais si tu ne fais pas ça, tu auras ça. Et puis en fait, on sait très bien qu'on ne va pas le faire. Mais on ment à nos enfants. À longueur de journée, on les menace de choses dont on n'arrivera jamais à faire pour qu'ils aillent dans notre sens. Et on leur ment tout le temps. On leur ment tout le temps. Je ne sais pas si des personnes se reconnaissent, mais quand on commence sans cesse à faire des chantages à droite, à gauche, à nos enfants, en leur promettant telle ou telle correction et qu'on ne la donne jamais, je ne dis pas qu'il faut donner les corrections, mais il y a un moment donné, quand on s'en sert pour faire du chantage, c'est des mensonges, parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas aller jusque-là. Et on essaie de faire peur, mais ce n'est pas comme ça qu'on éduque. C'est pas comme ça qu'on transmet aux enfants des vraies valeurs. Nos enfants, ils ont le droit d'entendre de leurs parents la vérité aussi. C'est une question qui est forte sur mon cœur. Est-ce que on réalise ce matin qu'on peut être des parents qui mentent sans arrêt à nos enfants ? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quand tu dis quelque chose, fais-le. Et si à un moment donné, tu as prévenu ton enfant que s'il continuait, il y aurait une correction. Alors, si je dis correction, je ne parle pas d'une fessée, je parle d'un redressement, vous savez. Ça peut être fait en douceur, une correction. Une correction comme une correction informatique, quelque chose comme tac, un ajustement, quelque chose qui permet, paf, de redresser. Si tu continues, je vais être obligé d'intervenir. Mais si le gamin, il continue, et puis qu'on n'intervient pas, ben on a menti. Qu'est-ce que je transmets à mon enfant ? Dans ma vie de tous les jours. C'est le plus grand et fort des témoignages que j'ai. Je peux dire à mes enfants, voilà, il faut suivre la parole de Dieu, il ne faut pas mentir, ceci. Mais c'est bien de le faire. Mais si dans ma journée, je passe mon temps à mentir et à être agressif avec mon enfant, à chaque fois que je lui parle, c'est avec de la colère, avec de l'agacement, etc. Qu'est-ce que je transmets comme valeur ? Mais c'est ça les chrétiens, ils sont tout le temps en colère. C'est ça les chrétiens, ils sont toujours agressifs. C'est ça les chrétiens, ils donnent des ordres comme ça, puis eux ils font rien, ils restent les bras croisés tout le temps. C'est ça les chrétiens. Imaginons ce que nos enfants reçoivent quand ils nous voient faire l'inverse de ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit qu'il ne faut pas, père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. C'est autre chose. Hein. Je ferme la parenthèse. Mais cette petite fille, imaginons tout ce qu'elle a reçu de ses parents pour pouvoir avoir le courage de dire ça à Naaman. Elle avait quelque chose d'ancré dans son cœur, de fort dans son cœur. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle a vécu, cette petite fille ? Elle a vécu l'arrivée des talibans chez eux, qui sont pas venus de main morte. Qu'est-ce qu'elle a vécu, cette fille ? Elle a vécu des... Qu'est-ce qu'elle a vu, cette fille ? On n'en sait rien. La Bible est sobre là-dessus. Qu'est-ce qu'elle a vu ? Elle a vu des terroristes venir chez elle. Elle a vu des terroristes l'embarquer de force. Peut-être qu'elle a vu des meurtres. Peut-être qu'elle a vu ses parents tués par ces mêmes soldats. Peut-être qu'elle a vu ses frères, ses sœurs tués aussi. Et elle, en fait, elle a été prise embarquée. Elle aurait pu nourrir tellement de choses dans son cœur. Tellement de colère. Tellement de sentiments d'injustice. Tellement d'esprit de vengeance. Elle aurait pu ressasser tout ça. Et pourtant, dans son cœur, on voit autre chose. Rendez-vous bien compte, rendons-nous bien compte l'importance de ce qu'elle a reçu de ses parents pour pardonner. Elle avait un esprit de pardon, cette petite fille. Et ça, même chez les Juifs, c'était pas si simple. C'était pas si simple. Cette petite fille, voilà la faiblesse de Dieu dans cette histoire. Elle qui, dans son cœur, était prête à pardonner. Et on voit ici dans son comportement que elle a compassion de son maître. Elle a accepté la situation. Elle a compassion de son maître. Elle croyait encore au Dieu de ses parents après avoir vécu tout ce qu'elle a vécu. Il faut être sûr quand même. Hein. Ce qu'elle avait reçu, c'était un clou planté, comme on peut le lire dans la parole. Un clou planté. Elle était même désintéressée de son cas personnel dans cette histoire. Elle aurait pu se rebeller, elle aurait pu être indifférente. Elle aurait pu dire, de toute façon, c'est pas juste si je suis là. Hein. Qui se débrouille avec sa lèpre. Non, c'est pas comme ça qu'elle a réagi. Elle interpelle le roi Naaman et on voit que chez Naaman, finalement, on a deux personnes opposées qui se sont rencontrées, mais qui avaient peut-être un point commun quand même. Parce qu'on peut voir quand même que Naaman, c'est un homme qui, de par sa situation, aurait pu jouer à l'autoritaire, au supérieur. Et c'est quelqu'un qui, malgré tout ce qu'il avait, tous ses biens matériels, sa bonne situation professionnelle, etc. Il lui manquait absolument rien. Mais il lui manquait le principal. Il lui manquait la guérison de sa lèpre. Et la lèpre, c'est l'image du péché. Et ici, vous pouvez avoir toutes sortes de bonnes situations. Vous pouvez avoir un bon travail, vous pouvez avoir une famille que vous dirigez bien, que vous enseignez vos enfants correctement, vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Vous pouvez être quelqu'un qui a une vie heureuse, on peut le dire. Certains, ils ont une vie heureuse sur ce monde, même s'ils ne sont pas chrétiens. Même s'il y a quand même un vide, c'est sûr. Il y a un vide à l'intérieur. Mais cet homme, quand même, il réussit dans tout ce qu'il entreprend. Il est allé en Israël, il a vaincu. C'est pas rien. De vaincre en Israël contre Israël. Et voilà, il y avait des victoires, il était acclamé, il était... Voilà un homme qui était quelqu'un à qui tout réussissait. Il avait par contre le péché. Et ici, dans cette histoire, il y a toute l'importance de réaliser que même si dans ma vie tout semble réussir, tout est correct, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Peut-être que dans ton cœur, tu es comme lui, il y a cette lèpre à l'intérieur, ce péché auquel il te faut être absolument guéri. Si tu veux espérer être au ciel. Je l'ai lu tout à l'heure. Celui qui est dans le péché, il ne peut pas être auprès de Dieu. Et on va le voir pour terminer. Grâce à ce que le Seigneur a fait sur la croix, je peux être pardonné de mon péché, lavé de mon péché. Et c'est toute l'image de ce que va vivre Naaman. Il va être lavé, il va être guéri du principal problème qui le séparait de Dieu. Et ce général... Il aurait aussi pu mal réagir devant la parole de cette jeune servante. Mais excuse-moi, mademoiselle, ça va très bien. De quoi tu te mêles ? Est-ce que parfois, nous qui sommes parents, ou qui sommes en position de supériorité au travail, par exemple, quand quelqu'un d'en dessous vient nous faire une remarque, alors il n'y a aucun message avec... mon responsable. Quand quelqu'un d'en dessous vient faire une suggestion, est-ce que j'ai l'oreille attentive ? Quand bien même c'est mon fils, ma fille, « Hey papa, Là, c'est pas bien ce que tu fais. Quoi ? Toi, tu me fais un reproche ? Naaman, il n'a pas dit ça. Et Naaman aurait pu aller plus loin encore. Il aurait pu se dire, mais hey, ton Dieu, là, qui est si grand, il n'a pas sauvé tes parents. Hein. Ça aurait pu être sournois, ça aurait pu être méchant, ça aurait pu être... Il n'a pas épargné ta famille, regarde. Tu es là chez moi, tu es ma servante. Il est grand ton Dieu, regarde, tu ne serais peut-être pas là. Des fois, on peut être comme ça aussi. Des fois, on peut être comme ça. Parce qu'on ne supporte pas d'être remis en question par quelqu'un, entre guillemets, qui est plus bas que nous. Et ça nous pique tellement dans notre orgueil. J'ai parlé de l'orgueil il n'y a pas très longtemps. Mais ça nous pique tellement dans notre orgueil qu'on est incapable d'entendre une remarque juste. En plus, qui a été dite avec amour, avec le tact, la douceur, tout ce que vous voulez. Et nous, on fait les petits roitelets là, et puis hop, du balai. Il n'a pas réagi comme ça, Naaman. Il n'a pas demandé à la petite fille que si son Dieu était si grand, pour qu'est-ce qu'elle faisait là chez lui. Non, il n'a pas demandé tout ça. Il n'était pas orgueilleux, lui. Mais au contraire, il a reçu cette parole humblement dans son cœur. Il a accepté la suggestion de cette jeune servante. C'était même pas sa fille, c'était une servante d'Israël, le pays des vaincus. Et vous voyez la faiblesse ici qui apparaît. Celui qui semble avoir été vaincu, la solution vient du pays des vaincus, la solution vient de la servante. Est-ce que ça ne fait pas allusion à autre chose ? Il y en a un autre qui a été vaincu. Et la solution vient aussi de lui. Et nous, on pourrait faire aussi comme Naaman, faire les petits roitelets, de dire « Mais j'ai pas besoin de la mort de Jésus sur la croix. Je mène une vie très bien, je ne demande pas, je ne vole pas, j'ai une vie réglée, je paye mes impôts, je travaille correctement, et quand j'ai des employés, eh bien je m'occupe bien d'eux. Je suis à l'écoute de mes... » On peut avoir toutes sortes d'arguments pour dire qu'on n'a pas besoin de la suggestion du faible. Et pourtant, si seulement tu voulais écouter qu'à travers cette faiblesse se cache une puissance incroyable, tu n'imagines même pas. Et Naaman, il a écouté cette petite fille et il a engagé des démarches. J'ai entendu ça aussi une fois, quelqu'un qui avait besoin d'aide et qui se disait « Mais non, mais ce n'est pas des inconvertis qui vont venir à mon aide. Moi, je suis spirituel. Moi, je compte sur la grâce de Dieu. » Ah bon ? Et des fois, la grâce de Dieu, elle vient peut-être par un inconverti qui va venir te faire une suggestion, une remarque qui est tout à fait à propos. Et Dieu s'est caché derrière cette personne, cette faiblesse. Cette personne qui ne semblait pas connaître Dieu, qui peut-être ne le connaît pas, mais Dieu est au-dessus. Et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y fait pas attention. Et nous, on n'est pas à l'écoute. On n'accepte pas les remarques. On n'accepte pas des suggestions, même dites comme il faut. Peut-être qu'il serait temps de redescendre de notre piédestal. Peut-être qu'il serait temps de redonner un coup de balai à notre fierté et la mettre dehors. Parce que c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Si Naaman s'était reposé sur tous ses acquis, il serait encore malade et il serait mort malade par la lèpre. Mais il a écouté. Il a écouté. Laissons nos soucis, nos inquiétudes. Laissons peut-être nos questions, nos préjugés même. Et écoutons la voix du Seigneur. Il y a aussi dans des cas de souffrance, toujours en relation avec ce principe, une parole qui peut faire, je l'ai dit parce que ça m'est arrivé de la dire, une personne qui souffre, on va prendre l'exemple du deuil. Et puis vous avez ce bon conseil qui dit, allez, il faut être fort, ça va aller. C'est un conseil empoisonné ça. Parce qu'il te dit l'inverse du principe de Dieu. Non, vas-y, pleure. Laisse-toi aller. En ce moment, tu es faible, je vais prier pour toi. ces conseils qu'on on veut bien faire en plus. On veut bien faire, mais on inculque aux gens quand ils souffrent qu'il faut être fort. Punaise, c'est impossible. C'est impossible. Quand on est dans une situation difficile, comment je vais être fort? J'ai pas de force. Comment je vais me lever? J'ai pas de force. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à me lever. La seule chose qu'il me dit, c'est lève-toi. Mais non, je peux pas me lever. Que le Seigneur nous aide dans nos conseils qu'on peut donner à des personnes qui souffrent vraiment, des personnes qui traversent des moments vraiment difficiles. Et nous, on leur dit, il faut que tu sois fort. Punaise, mais arrêtons de dire ça. La personne, elle est faible devant moi. Et elle est comme elle est. Et je ne pourrai rien faire. Je peux prier pour elle. Je peux lui montrer que c'est pareil. On peut pas dire à une personne qu'on la comprend, parce qu'on ne la comprend pas. On n'est pas à sa place. On peut prier pour elle. Être présent. Peut-être faire comme les amis de Job la première semaine. Sous terre. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous sortir. Il n'y a que le Seigneur qui peut relever quelqu'un qui est dans une situation de faiblesse comme ça. Et des fois, Dieu permet aussi des situations où on est dans la faiblesse parce qu'il a un plan prévu. Mais pourquoi je suis malade? Pourquoi je traverse telle ou telle situation? Et le Seigneur te dit, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Et nous, on a du mal parce que quand on se retrouve, on est orgueilleux, on est tous orgueilleux. Et quand on se retrouve rabaissé, eh bien, on a du mal à l'encaisser. Et des fois, le Seigneur le permet, parce que on est peut-être dans une bonne disposition spirituelle en plus, qui va lui permettre, comme cette petite fille, d'être en bénédiction pour quelqu'un. Et c'est là encore l'enseignement de cette histoire, c'est que cette petite fille, c'était la faiblesse de Dieu, et par son intermédiaire, il va y avoir la délivrance de quelqu'un. Et à travers aussi ce que le Seigneur Jésus a fait, lisons ensemble dans Philippiens, au chapitre 2. Et on va se rassembler pour prendre la scène. Philippiens chapitre 9 nous rappelle ce que le Seigneur Jésus a vécu. Et s'il est allé jusque-là, c'est pour que par cette faiblesse-là, la puissance de Dieu puisse être manifestée pour tous les hommes. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui, dans la condition, était celle de Dieu. Il était tout en haut. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Parce que c'était le plan de Dieu. Je rajoute une dernière parenthèse. Mais pour qu'on puisse voir où est-ce que notre orgueil pourrait nous conduire aussi. On va s'affaiblir nous-mêmes. Et c'est parce qu'en plus, on a peut-être mal interprété le principe, parce qu'on a peut-être cru que c'était dans notre faiblesse que la puissance de Dieu allait se manifester. Mais non, c'est dans la faiblesse. Et c'est très important de faire la différence. Et certains pourraient se dire, mais je vais m'abaisser encore plus. Je vais chercher à m'affaiblir moi-même. Comme ça, Dieu va être obligé de me... Vous comprenez comment on peut être tordu? Là encore, qu'est-ce qu'on est en train de faire en faisant ça? On est en train de tenter Dieu. C'est aussi simple que ça. Et c'est bien écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Donc la faiblesse en question, c'est une faiblesse voulue par Dieu. Et Jésus, quand il se dépouille comme il le fait, c'était le plan de Dieu. Donc il n'a fait qu'obéir. Alors si je reprends ici la lecture... Verset 7, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi la puissance de Dieu. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La gloire revient à Dieu. Et ici, dans ma situation, je ne cherche pas à m'affaiblir par moi-même, mais je vis ma vie. Et parfois, Dieu permet que nous soyons en situation de faiblesse, peut-être même parfois dans de grandes faiblesses. Et celui qui a un clou planté bien fort, il risque de vivre une grande faiblesse, parce que Dieu peut compter sur lui. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et comme le dirait l'apôtre Pierre, il considérait comme un honneur de vivre des persécutions, de souffrir pour la cause de l'Évangile, comme l'apôtre Paul, comme les apôtres. Est-ce que, c'est une dernière question, Jésus nous a montré un chemin et le Seigneur nous a demandé de proclamer l'Évangile. Jusqu'où je suis prêt à subir les conséquences ? Le Seigneur ne nous dit pas de jeter nos perles au pourceau, c'est vrai. Mais le Seigneur nous dit, quand on a la possibilité, fais-le. Et des fois, ça peut coûter cher. Mais est-ce que je suis prêt à souffrir ça ? Parce que dans cette situation de faiblesse dans laquelle je vais me trouver, peut-être qu'il va y avoir la puissance de Dieu qui va se manifester. Parce que j'aurai été docile, parce que j'aurai fait confiance à Dieu. On ne connaît pas la suite de cette histoire pour la petite fille. Mais quelque chose me dit que la suite de sa vie a été en bénédiction pour d'autres. Et que le Seigneur nous aide encore ce matin. On va se lever. Je propose à ceux et celles qui ont dans leur cœur ce désir de s'engager pour le Seigneur. Ceux qui veulent suivre l'exemple. Ceux qui se sont engagés, qui ont pris le baptême. On va se lever les uns les autres. Et on va participer au repas du Seigneur, mais qu'on puisse réfléchir un instant. Participer à ce repas, c'est pas prendre un bout de pain et un bout de vin. J'appelle les frères, peut-être qui... J'ai oublié de les appeler, je suis désolé. Mais quelques frères, si vous voulez bien venir, on a changé un peu la manière de distribuer. Il y aura des gobelets pour le pain et des gobelets pour le vin. Prendre ces éléments, c'est se rappeler à quel point Christ a souffert pour nous racheter, pour nous offrir le salut, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, la paix qui nous est possible en lui. Mais prendre ce repas, c'est aussi dire, Seigneur, je fais partie de cette famille de Dieu et je veux tout à nouveau marcher dans tes traces. Seigneur, aide-moi à supporter la faiblesse dans laquelle tu pourrais me mettre, pour que ta puissance puisse se manifester au travers de moi. Seigneur, tout à nouveau, je veux m'engager à marcher humblement devant toi. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu marches humblement devant ton Dieu, que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde. La miséricorde, c'est quand on pardonne à quelqu'un qui n'est pas pardonnable. Et ce matin, on a entendu un don d'une personne qui ne sait pas trop quoi faire. La parole est claire, nette et précise. C'est peut-être difficile de pardonner. Mais je t'encourage, ma frère, ma sœur, cher ami, à vivre cette expérience. Parce que, au contraire, tu vas vivre une vraie délivrance. Et que, à travers cet engagement des uns des autres ce matin, on puisse devant Dieu s'engager à nouveau, devant celui qui s'est fait faible, pour que la puissance de Dieu se manifeste à travers lui. La vie éternelle qui nous est donnée aux uns et aux autres par Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Et nous te rendons grâce Seigneur parce que tu t'es laissé rendre faible Seigneur pour que nous puissions être forts nous-mêmes Seigneur Jésus. Merci Seigneur parce que tu as accompli à la croix du calvaire. Tu nous as donné la possibilité d'avoir accès à ta vie. Merci Seigneur pour tes souffrances. Merci Seigneur parce que tu as tout fait pour nous. Encore une fois, ce matin, si nous sommes là, c'est parce que nous voulons te remercier. Mais encore une fois, nous voulons te dire que nous t'aimons. Et nous ne voulons pas que le dire. Nous voulons que nos vies te soient agréables. Je te prie, Seigneur, pour que les uns et les autres, tu nous aides à ce que notre vie te soit agréable, Seigneur. Vraiment, Seigneur Jésus, c'est ma prière encore ce matin. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Pendant ce temps...